consultation au Bloc et bloquisterie, je dis bien, de Patrick Lagacé cet après-midi.
Il y a les piquisteries et les bloquisteries. Ça, c'est quand les souverainistes s'enfergent leur lacet sémantique ou dans les guerres internes. Et tu le sais, il y a beaucoup de bloquisterie de ce temps-là au Bloc. Donc, il y aura une double consultation au Bloc québécois en juin. La première question va être simple, Paul. Acceptez-vous de renouveler votre confiance envers Martine Ouellette, chef du Bloc québécois? Mais là, attache ta tuque avec de la broche, ta tuque de patriote. La deuxième question, question référendaire, va demander aux membres du Bloc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Une bonne opposition qui défend les intérêts du Québec à Ottawa ou un Bloc québécois qui est toujours dans la promotion de l'indépendance? Et voici la question, attachez vos tuques. Le Bloc québécois doit-il, dans ses actions quotidiennes, virgule, et non pas seulement en théorie, virgule, être le promoteur de l'option indépendantiste en utilisant chaque tribune et chaque occasion pour démontrer la nécessité de l'indépendance du Québec, permets-moi de reprendre mon souffle, virgule, tant avec les militants et les citoyens qu'avec les médias au Parlement d'Ottawa, d'ici l'indépendance, telle qu'indiquait l'article 1 du programme du Bloc, oui ou non?
Alors, ça fait 5 lignes et ça ressemble plus à une dictée.
Ben, ça ressemble plus à une dictée et, écoute, Il y a quelque chose comme une parodie de toutes les contorsions sémantiques des questions référendaires soumises par le PQ aux Québécois en 80 et en 95.
Ben en 80, je vais dire une affaire, était longue, hey, la question.
Elle était plus longue que celle de 95.
Oui,
hein?
Oui, absolument.
Mais regarde, voici un parti qui est réduit à peau de chagrin et qui est plongé dans la tourmente parce que la chef élue est en complète contradiction avec, je dirais, ce qu'on peut appeler le mainstream de ce qu'a été le Bloc et de ce que portent les députés bloquistes qui restent. Sont pas beaucoup, hein? Moins d'une dizaine. Et là, cette question-là, qui est un peu piégée, je dirais, parce que, dans le fond, ce qu'on demande, c'est est-ce que vous acceptez que le Bloc se transforme en ce que Martine Ouellette croit que le Bloc doit être, et elle fait partie, Mme Ouellette, de cette mouvance qui a été incarnée par Mario Beaulieu aussi, quand il a été chef, là, pas très longtemps. C'est-à-dire que quand tu es un député souverainiste, tu devrais parler de souveraineté tout le temps, qu'importe le sujet, qu'importe l'endroit. Et ça, c'est une belle vision en théorie, mais tu sais, un député du Bloc qui va se lever en chambre pour dénoncer, je sais pas moi, un cas d'immigration qui relève de sa circonscription. Tu sais, quelqu'un dans sa circonscription qui a un problème avec Immigration Canada, est-ce que au lieu de seulement présenter les absurdités, les injustices que cette personne-là vit, est-ce qu'il va falloir mettre une ligne automatique après et dire « Et dans un Québec souverain, le dossier de l'immigration serait mieux géré? » C'est la vision de certains souverainistes à la Martine Ouellette. Moi, je te dis, j'ai l'impression que, un, ces souverainistes-là oublient à quel point ça a été une bonne opposition au Bloc québécois quand Gilles Duceppe était là et combien on en faisait élire de députés du Bloc québécois à l'époque.
À un moment donné, ils ont formé l'opposition officielle.
Sous Lucien Bouchard, mais après ça, de très bons scores aussi avec
Gilles Duceppe aussi, oui, oui.
Et il ne s'agit pas de toujours répéter un message pour que les gens y adhèrent. Tu sais, Mario Beaulieu a été chef pas très longtemps, Paul, et il était de cette école-là. Et on a vu ce que ça a donné. Il se dirigeait vers une défaite électorale épouvantable et il a appelé Gilles Duceppe à la rescousse à la dernière élection.
Mais tu vois, à cette époque-là, le Bloc se présentait non pas comme un parti souverainiste à Ottawa. Oui, bien sûr, ça faisait partie des objectifs du parti. Mm-hmm. Il se présentait surtout comme le défenseur du Québec, les défenseurs du Québec à Ottawa.
En étant bonne opposition.
Exactement.
Et ce que moi regarde, je suis pas politologue, je suis pas militant souverainiste, mais ce que ça montrait, c'est que des souverainistes pouvaient se comporter de façon professionnelle sur la scène fédérale. Et à chaque fois qu'ils parlaient, on le savait que c'était un souverainiste, on le savait que ces gens-là voulaient faire l'indépendance. Mais s'il avait fallu qu'à chaque fois que Gilles Duceppe prend la parole et ses lieutenants et ses autres députés prennent la parole et ajoutent une petite ligne, et dans un Québec souverain, ce serait mieux, me semble qu'on serait tombé dans un discours qui relève plus de la propagande que de l'action politique. Mais regarde, je suis pas expert en bloquisterie, je suis juste un commentateur, je connais rien là-dedans, mais ça allait mieux au Bloc québécois quand c'était on avait l'ambition d'être une bonne opposition.
Alors, on va être fixé les 1er et 2 juin prochains. Et oui. Seuls les membres du parti au 24 mars, donc il est trop tard, vous ne pourrez pas voter oui. si vous n'êtes pas membre. Ça s'arrête au 24, donc samedi dernier. En ce qui a trait aux gens qui pourront voter, il va être 20 000 à peu près.
Voilà.
On verra bien. Est-ce que tu as regardé en direct l'émission 60 Minutes avec l'entrevue d'Anderson Cooper et Mme Stormy Daniels?
Je l'ai rattrapé. J'ai vu les extraits et j'ai lu la transcription sur le site du réseau américain. Écoute, juste te dire ceci, OK? Cette affaire-là est cocasse parce qu'une des personnes impliquées est une star de la porno. Puis là, on peut avoir les sarcasmes qu'on veut puis l'ironie qu'on veut, Paul, mais moi, ce que j'entends, les paroles de Mme Daniels, je la trouve sensée. Je trouve que son discours est plus digne que ce que dit et ce que fait Trump. Et c'est pas elle qui poursuit pour pas qu'elle parle, hein, en passant.
Non. Non.
C'est
non,
pas
non,
ce
non.
que ça veut dire pour
non.
toi, là.
Non, mais c'est ça. Et non seulement ça, c'est qu'elle se sent menacée parce que si elle brise cet engagement à hauteur de 130 000 $ qu'elle a prise, elle s'expose elle-même à une poursuite d'un minimum d'un million de dollars.
Voilà. Mais regarde, je pense qu'elle n'aura pas de difficulté à se socio-financer, comme on dit de nos jours.
Non.
Puis, tu sais, quand tu parles de menace, juste revenir sur un aspect de son entrevue avec Anderson Cooper, elle dit qu'elle a été menacée par un inconnu en 2011.
Oui.
Quand toute cette histoire-là, quand elle a voulu parler de cette histoire-là à un magazine.
Et elle s'en allait au gym et elle était accompagnée de sa petite fille.
Exactement.
Et l'individu lui aurait dit « très beau bébé ».
Ce serait dommage que quelque chose arrive à sa mère, ce bébé-là.
Exactement.
Donc, menace directe. Personne n'était là, on ne sait pas si c'est vrai. Mais, regarde, là où on tombe dans la preuve circonstancielle, c'est que l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, c'est un avocat casseur de jambes métaphorique qui a déjà travaillé, quelqu'un soulignait ça aux États-Unis sur Twitter, qui a déjà travaillé dans l'industrie du taxi. Il a déjà eu des clients dans l'industrie du taxi à l'époque où casser des jambes, c'était assez courant.
Mm-hmm.
Et c'est une tactique de l'industrie du taxi new-yorkaise des années 80, ça, d'envoyer quelqu'un te dire « ce serait plate qu'il t'arrive quelque chose quand on veut te faire fermer la gueule ».
On verra la suite. Merci beaucoup, Patrick. À demain.